Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour les tout derniers carnets de cette étrange année 2020. Pour vous accompagner jusqu'à 14h, on a choisi certains des nombreux grands reportages que les reporters d'Europe 1 sont allés tourner partout autour de la planète depuis la rentrée. Morceaux choisis, par exemple, pour illustrer l'élection présidentielle américaine. On va réécouter ensemble deux reportages que Xavier Yvon et Théo Manval nous avaient proposés juste avant et juste après le vote début novembre et qui dressent le tableau d'une Amérique fracturée et inquiète. Je suis désolée. C'est dur d'imaginer notre monde sous Biden. Son programme environnemental, ça veut dire qu'il n'y aura plus de travail pour les générations futures. J'ai peur pour l'avenir de ma petite fille ici. Réparer les fractures de son pays, politique mais aussi sociale et raciale, ce sera l'un des gros enjeux de la présidence de Joe Biden. Autre blessure, celle des centaines de millions de personnes qui souffrent de fragilité ou de maladies mentales et qui ne sont pas prises en charge. Dans beaucoup de pays, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de personnel formé, pas de médecin. Et les malades se retrouvent enfermés toute leur vie, comme cette femme au Kenya.
Je voudrais tant aller dehors me réchauffer au soleil. Je me souviens quand j'étais à l'école et que je pouvais profiter de la nature. Aujourd'hui, regardez ces traces sur mes bras. Ils m'ont enchaîné à mon lit.
Et puis il y a aussi le monde qui change pour le meilleur. Exemple, cette nouvelle méthode développée en Allemagne et qui commence à s'exporter, Discovering Hands, les mains qui découvrent. Ce sont les mains de femmes aveugles qui ont le talent de découvrir des cancers du sein à un stade très précoce grâce à la palpation.
L'examen en soi ne fait absolument pas mal, mais si vous ressentez des points sensibles, dites-le-moi pendant l'auscultation. Et maintenant, je vais palper la poitrine centimètre par centimètre, aussi les couches en profondeur, d'abord doucement sous la peau, puis jusqu'à toucher la cage thoracique.
Enfin, on évoquera la maternité, ou plutôt ce moment où l'on donne la vie. Ça a beau être la chose la plus naturelle du monde, ça se passe très différemment selon l'endroit où vous vivez, à cause des traditions, à cause des guerres, exemple en Afghanistan, ou à cause des normes sociales qui s'imposent peu à peu. Au Brésil, par exemple, il devient très difficile d'éviter la césarienne.
Ça a été un casse-tête. Mon mari me voyait piquer des crises de larmes au téléphone. J'avais un tableau Excel avec, je sais pas, j'avais 20 noms d'obstétriciens. Enfin, c'était vraiment un parcours du combattant.
Venez avec nous en vadrouille, venez réécouter certains des grands reportages des carnets de ces derniers mois. Il y aura aussi la voix cristalline d'une chanteuse marocaine magnifique et les récits du voyageur le plus curieux d'entre nous, Joseph Chovanec. Les carnets du monde sont ouverts, direction les États-Unis.
Europe 1, les carnets du monde. Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ça a été l'un des moments forts de cet automne. L'élection présidentielle américaine a tenu toutes ses promesses. On savait qu'elle serait très disputée. Le nombre de votes par anticipation ou par correspondance avait littéralement explosé. Dans chacun des camps, démocrates et républicains, de nouveaux électeurs s'étaient inscrits et déplacés pour participer au scrutin. La campagne, comme l'après-élection, ont confirmé un tableau qui se dessine depuis plusieurs années, celui d'une Amérique profondément divisée. Comme en témoignent les deux reportages qu'on a choisi de réécouter ensemble aujourd'hui, des reportages diffusés juste avant et juste après l'élection du 3 novembre. Voici d'abord une vision de cette fracture au cœur des foyers américains ou parfois dans leur jardin sous forme de panneaux électoraux. Reportage signé Xavier Yvon.
Le drapeau bleu Trump couvre tout un étage de la maison. Il m'a coûté 600 $, raconte fièrement Jennifer, gérante d'une station de lavage de voitures dans cette petite ville au milieu de l'Ohio. On soutient le président, dit-elle, parce qu'il est bon pour nous, les PME. Biden, ce serait le retour des impôts trop lourds. Et si vous n'aimez pas le drapeau, j'espère que ça va vous faire voter, explique Jennifer avec un peu de provoque. Que vous votiez pour Trump ou pour Biden, allez voter. Sur les routes de campagne du Midwest, là encore, le soutien à Trump saute aux yeux. Devant les maisons de mes voisins, il n'y a pas un panneau, il y en a quatre ou cinq. Ils en font des mausolées, explique Chris, l'un des rares fermiers anti-Trump. Ces gens ne disent pas seulement « je soutiens le président », ils le hurlent à leurs voisins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, analyse Chris, ils sentent la peur de perdre. Si les régions rurales sont un terreau fertile pour les panneaux Trump, les zones plus urbanisées, elles, voient fleurir les affiches Biden, notamment dans les fameuses banlieues résidentielles où vivent ces mères au foyer électrices si convoitées par les deux candidats. Melinda, par exemple, voit beaucoup plus de signes de soutien aux démocrates que d'ordinaire, plus de Joe Biden que d'Hillary Clinton il y a 4 ans. En 2016, on voulait rester en bon terme avec nos voisins, explique-t-elle. On appelle ça la gentillesse du Midwest. Mais cette fois, les gens en ont ras-le-bol. Ils sont conscients du danger de 4 années de plus de Trump. Melinda a donc décidé de planter un panneau Biden dans son jardin et d'en proposer autour d'elle, notamment à son voisin immédiat qui vient d'arriver dans sa rue pavillonnaire.
Il m'a dit non, ça va. Et le lendemain, dans son jardin, il y avait un panneau Trump d'un mètre par deux avec des lumières. Alors je suis allée voir la voisine d'après et je lui ai demandé si elle voulait une pancarte démocrate. Et elle a dit, il faut que je te montre un truc. Elle a déployé un panneau Biden d'un mètre par deux et le lendemain, il était planté dans son jardin avec des lumières.
On se reparlera peut-être après, conclut Melinda, mais pour nous, c'est une question de vie ou de mort de notre démocratie. Les passions sont telles autour de l'élection que ces panneaux politiques deviennent des symboles à abattre. En Pennsylvanie, Wisconsin ou Ohio, partout, on raconte des histoires de pancartes volées ou vandalisées, comme chez Babette, une franco-américaine de Columbus.
Il était déchiré dans la rue et on pense que c'est nos voisins. Donc j'ai hésité à en remettre un, mais je me suis dit, je ne vais pas me laisser intimider. Je suis fière de mettre mon signe, et s'il est volé, j'en ai un autre dans mon garage. Et là, c'est régulier. Nous, dans notre ville, en général, c'est plus le contraire qui se passe. C'est les panneaux de Trump qui disparaissent.
L'Amérique divisée se livre une guerre des panneaux électoraux. Et au sein même des familles, la tension est à son comble. Babette ne sait plus comment parler à ses beaux-parents. Trumpiste scotché devant Fox News toute la journée. Son mari, Alexander, en arrive même à avoir des pensées presque inavouables.
Moi, j'ai dit les fantaisies, c'est d'empêcher mes parents de voter ce jour-là en faisant quelque chose à leur voiture. Casser les pneus.
S'ils te demandent de les accompagner au bureau de vote, tu fais quoi ?
Je fais un grand détour.
C'est rare, mais on trouve des familles où l'on arrive à coexister malgré les différences politiques. Chez les Cumfield, par exemple, dans un tout petit village à la frontière entre l'État de New York et la Pennsylvanie. Dans le jardin, il y a des panneaux Biden et Trump, côte à côte. C'est Lurch, le père de famille à la longue barbe grise, qui ouvre la porte. Trump, c'est moi. Biden, c'est ma fille, explique ce tailleur de pierre, qui ne voit pas où est le problème. De toute façon, dit-il, si j'enlève les siens, elle enlèvera les miens. Au téléphone, Sabrina confirme. Elle rentrera bientôt du travail et elle explique qu'elle arrivera parfaitement à parler politique avec son père, comme tous les jours.
Si Trump dit qu'il soutient les petits artisans, je peux comprendre pourquoi mon père y croit. Et d'un autre côté, quand Biden dit qu'il veut des actions contre le changement climatique, mon père peut comprendre pourquoi je soutiens ça. Au bout du compte, vous savez, Trump et Biden, ils ne savent pas qui on est. Alors pourquoi on les laisserait nous affecter si profondément ? Mon père, je l'aime.
C'est parfaitement dit, chérie.
Papa Trump, fille Biden, et entre les deux, maman indécise. Anna a voté Trump il y a 4 ans, mais elle n'est pas sûre de recommencer.
On voulait du changement, un changement radical, et bah mon vieux, on a eu du changement radical. On a déjà donné une chance à Trump, c'est peut-être le moment de donner la sienne à Biden. Mais bon, aucun des deux ne motive beaucoup. On a le droit de ne pas être d'accord entre nous. Ça montre des esprits sains, éduqués, la liberté de choix. C'est ça l'Amérique, non ?
L'Amérique divisée donc à l'heure du choix, mais unie autour d'un mot d'ordre que l'on retrouve aussi sur beaucoup de panneaux à travers le pays. Allez voter.
Reportage signé Xavier Yvon et tourné juste avant l'élection. Une semaine plus tard, c'est Théo Manval que l'on retrouvait depuis les États-Unis. 5 jours après la fin du vote, après un long dépouillement et encore quelques recours judiciaires à boucler, l'avance de Joe Biden ne faisait plus de doute, mais l'Amérique apparaissait plus polarisée que jamais, avec la moitié du pays convaincue que l'autre moitié avait volé la présidence. Au cours de 3 semaines de reportage, Théo Manval avait rencontré des gens en colère ou inquiets. Il nous racontait ses témoins et parfois acteurs de ces divisions.
Oui, qui donne le sentiment, vous le disiez, hein, de vivre dans deux mondes différents, deux Amériques qui ne se comprennent plus, comme si la victoire des uns menaçait le mode de vie des autres. Et on le ressent particulièrement en Pennsylvanie, par exemple, où Joe Biden l'emporte essentiellement dans les métropoles, alors que Donald Trump fait plus de 80% par endroit dans les campagnes ou dans les petites villes industrielles comme Kittanning, où j'ai passé deux jours. C'est au nord de Pittsburgh, c'est une ville où beaucoup de gens vivent de l'acier, du gaz. Et j'y ai rencontré Lonnie, elle a une cinquantaine d'années, elle gère une chambre d'hôte. Et elle a fondu en larmes en me parlant de la victoire démocrate qui se profilait avec la sortie des énergies fossiles qui est mise en avant par Joe Biden.
Ça me fait peur. Tout est parti. Et les forages gaziers sont la dernière chose à laquelle on a pu s'accrocher pour vivre. On a beaucoup souffert ici. Le charbon a fermé, les entreprises sont parties. On n'est plus qu'un squelette de ce qu'on était avant. Et je ne sais pas comment on survivrait s'ils nous enlevaient ça. Je suis désolée. C'est dur d'imaginer notre monde sous Biden. Son programme environnemental, ça veut dire qu'il n'y aura plus de travail pour les générations futures. J'ai peur pour l'avenir de ma petite fille ici.
La peur du programme de l'adversaire jusqu'à en pleurer. La division dans ces campagnes de Pennsylvanie, Théo, on la retrouve aussi dans le discours. L'idée que la victoire de l'adversaire n'est pas possible, sauf à ce qu'il ait triché, forcément.
Et oui, ça c'est la rhétorique de Donald Trump. Hein. Mais il l'a tellement martelé pendant un an et demi de campagne que c'est vraiment rentré dans l'esprit de beaucoup de gens. Et quand vous vivez dans une région qui vote massivement Donald Trump, que vous allez peu dans les villes qui soutiennent plutôt Joe Biden, et ben vous vous retrouvez conforté dans cette idée par tout votre environnement. Et c'est vraiment frappant quand on écoute Mike. Il est chauffeur poids lourd à New Stanton. C'est entre Pittsburgh et Philadelphie.
C'est impossible qu'il ait gagné la Pennsylvanie. C'est truqué à 110%. Si vous faites 60 km dans n'importe quelle direction ici et que vous comptez les panneaux Biden et les panneaux Trump, c'est un raz-de-marée pour Trump, un raz-de-marée. Je travaille avec 67 mecs ici et un seul vote pour Biden. Tous les autres, on a voté Trump. L'élection a été volée. Les bulletins par correspondance avec le Covid ont été remplis par les démocrates pour pouvoir se débarrasser de Trump. Beaucoup de gens ne veulent plus de lui, mais encore plus de gens veulent qu'il reste.
Voilà, ça fonctionne dans ce sens, mais aussi dans l'autre. Hein, si les démocrates ont été aussi surpris du nombre de votes encore plus massif pour Donald Trump cette année qu'en 2016, hein, 7 millions de voix en plus, c'est parce qu'à l'inverse, ils vivent souvent dans une autre forme de bulle qui les conforte dans l'idée que tout le monde déteste ce président hors norme.
Et au-delà de l'incompréhension qu'on a bien mesurée, il y a aussi plus que ça, hein, l'injure, la haine aussi parfois qu'on voit à des sommets en ce week-end post-élection.
Oui, on arrive au paroxysme du climat qui a été créé par cette campagne électorale. Ça fait au moins un an et demi que tous les jours, quand ils allument leur radio, leur télé ou les réseaux sociaux, les Américains voient des clips électoraux qui dénigrent plus le candidat d'en face qu'ils ne donnent vraiment le fond des programmes. Et on en arrive au point que Jeff, un retraité de Floride, m'a raconté que ses voisins lui font maintenant des bras d'honneur quand il passe devant chez lui parce qu'il a affiché un drapeau Biden.
Ils soutiennent Trump. Ils passent devant et ils crient « communiste, socialiste ». Éduquez-vous un peu, franchement. C'est incompréhensible de voir des gens commencer à se crier des grossièretés. On n'a pas besoin de ça. On a tous le droit d'afficher nos couleurs. Ce voisin a un signe Trump. Et alors, il est américain, t'as le droit. Ne crie pas dessus. Il faut que la décence revienne. Je prie chaque jour pour que Biden gagne et qu'on revienne à la normale.
Voilà, le retour de la décence, de la mesure, je l'ai beaucoup entendu ces trois semaines, le besoin de sortir aussi de ces contenus polarisés dont je vous parlais. On ne sait plus qui croire, les médias ne relaient pas les mêmes faits. En fonction des chaînes que vous regardez, vous n'arrivez plus à savoir ce qui est orienté, ce qui est manipulé ou pas. Même chose sur Facebook ou Twitter, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça vraiment. Et ça aboutit à une forme chez certains de nervous breakdown. Ils n'ont qu'une hâte vraiment, c'est que cette campagne se termine.
Bah justement, elle se termine dans un climat à la limite de l'affrontement. Vous avez vu à Philadelphie les militants des deux camps se faire face pendant plusieurs jours devant le bureau où étaient dépouillés les derniers bulletins avec des cordons de police au milieu.
Oui, pour éviter des affrontements, c'est assez surréaliste, mais parce qu'il y a des gens qui non seulement ne se parlent plus, mais sont carrément prêts à en découdre dans les deux camps. Au Texas, j'ai vu des miliciens noirs chasser un supporter de Trump de l'entrée d'un meeting de Kamala Harris, des gens vraiment en armes, grands fusils d'assaut, comme vous pouvez le voir parfois sur certaines photos. Et ces derniers jours à Philadelphie, j'ai rencontré cet homme, Dan, vraiment pas disposé à accepter une défaite du président sortant.
Si ça tourne mal, on sera là. Il y en a marre. Il y a deux mois, j'étais dans mon canapé à regarder la télé. Maintenant, je suis là, debout, prêt à me battre pour mon pays. La triche, les mensonges, les conneries. On a élu ce mec. Donc maintenant, on se lève. J'ai 52 ans, je vais à la muscu tous les jours. Je veux qu'on me rende mon pays ou alors c'est la guerre. Je suis prêt à me battre et on est des millions. Je n'ai pas d'arme à feu, mais si ça devient violent, s'ils veulent nous pousser à ça, j'ai ma caméra piéton fixée là. S'ils m'attaquent, je frappe en retour et je pourrai prouver que je n'ai fait que me défendre.
Un discours très effrayant, même si vous m'avez dit, Théo, que vous n'aviez pas non plus croisé des hommes armés à chaque coin de rue. Il y a cette fracture qui est très forte, mais ce n'est pas une violence latente.
Oui, comme toujours, on trouve une frange peu nombreuse, mais radicale, quand on tend son micro ici à ceux qui sont venus manifester leur soutien à l'un ou l'autre des candidats. Mais dans la majeure partie du pays, c'est vrai, l'immense majorité des partisans de Donald Trump à qui j'ai parlé acceptent ces résultats. Ils donnent rendez-vous dans 4 ans ou même 2 pour les élections de mi-mandat.
Voilà, et le 14 décembre, le collège des grands électeurs confirmait Joe Biden. La mobilisation était telle qu'il est finalement le président le mieux élu de l'histoire américaine, avec 81 millions de voix, 7 de plus que Donald Trump, qui continue malgré tout à entretenir les blessures. Le 13 décembre, il déclarait avoir peur pour le pays avec un président illégitime, fermez les guillemets. Joe Biden sera investi le 20 janvier prochain.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
En se remémorant les nombreux reportages de ces derniers mois, il y en a un qui nous avait particulièrement frappé, qu'on avait envie de réentendre ensemble. À l'occasion de la journée de la santé mentale qui a lieu tous les 10 octobre, on avait été saisi par cette statistique publiée par l'ONG Human Rights Watch. À l'échelle du monde, 792 millions de personnes ont un problème de santé mentale. Ça fait une personne sur 10 et parmi elles, un enfant sur 5. Et dans les faits, dans beaucoup de pays, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent attachées et enfermées par leurs proches, souvent faute de moyens ou juste par ignorance. Une pratique courante dans plusieurs pays, parmi lesquels le Kenya. Notre correspondante là-bas, Charlotte Simonard, nous avait emmenée à Nyeri, au nord de Nairobi.
Comté de Nyeri, une région rurale au centre du Kenya, connue pour ses plantations de thé et ses terres agricoles. Un chemin de terre, quelques baraquements de briques et de tôles, et puis sur ma gauche, une cabane en bois aux airs de bergerie. Derrière ces planches, on devine une voix féminine, c'est Anna, la cinquantaine. Anna parle en continu, enchaînant prières et paroles incohérentes. Elle n'était encore qu'une écolière lorsqu'elle a été diagnostiquée déficiente mentale par les médecins. Depuis 30 ans, Anna vit enfermée dans cette cabane insalubre. C'est Gladys, sa belle-sœur, qui s'en occupe.
Elle est enfermée là-dedans parce qu'elle s'échappe et qu'elle est folle. Elle court trop vite. Je ne sais plus la rattraper. Le matin, je lui donne un petit déjeuner, du porridge ou du lait. Quand elle défèque dans son lit, je la lave. Parfois, je l'emmène quelques minutes au soleil pour la réchauffer. Mais dès qu'elle s'énerve, je l'enferme à nouveau.
Gladys accepte que je lui parle, mais pas sans être encadrée par les hommes de la famille. Car Anna peut être violente, me disent-ils. Lorsque la porte s'ouvre enfin, une dame menue m'accueille tout sourire. Elle s'est même habillée pour l'occasion. Elle vit dans cette cabane de 2 mètres sur 3 à l'odeur insoutenable. Une bassine pour ses excréments, une autre pour se laver une fois par semaine. Un lit infesté de puces qui ronge la peau de ses orteils, comme elle me le montre avec insistance.
Je suis tellement mal ici. Je voudrais tant aller dehors, me réchauffer au soleil. Je me souviens quand j'étais à l'école et que je pouvais profiter de la nature. Aujourd'hui, regardez ces traces sur mes bras. Ils m'ont enchaîné à mon lit.
La famille n'explique pas clairement ce dont souffre Anna. Elle vole, elle crie, elle agresse parfois et agit de manière incohérente. Voilà pour le diagnostic. Pour la soigner, ils ont décidé de la garder enfermée car ils n'avaient pas les moyens de lui assurer un suivi médical. Mais au fil des ans, son emprisonnement a aggravé son état de santé mentale. Ses proches se sentent aujourd'hui démunis. Il faut dire que le Kenya compte moins de 2 psychiatres par million d'habitants. La santé mentale est loin d'être une priorité. Alors Anna reste enfermée 7 jours sur 7.
Ici, c'est mon lit, là où mon Dieu m'a dit de rester.
De part et d'autre de son lit, deux cordes pendent au mur pour attacher ses bras et l'immobiliser sur son lit en cas de grosse crise. Gladys n'en est pas fière, mais elle n'a pas le choix.
Je suis obligée de l'attacher à son lit parce que, si je ne le fais pas, elle arrive à s'échapper. L'autre fois, elle est devenue hystérique. Elle a cassé la porte et s'est enfuie. Je ne suis pas heureuse de faire ça, mais je n'ai pas d'autre choix.
Gladys et sa famille essuient les remarques désobligeantes de la communauté qui les accuse de protéger un monstre, le diable en personne, Anna. Au Kenya, les maladies mentales sont tabous. Marie Ndegou, qui m'accompagne pour cette visite, travaille dans une association qui tente de sensibiliser la population aux droits des malades mentaux.
Ce genre de situation est assez habituel ici. La plupart des familles enferment leurs proches malades à cause de la stigmatisation, de la honte. Les maladies mentales sont souvent associées à la sorcellerie, des mauvais esprits. C'est pour cela qu'ils les cachent. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas. Ils les aiment, mais c'est la seule option pour eux. Ils ne peuvent pas payer d'institutions spécialisées. Ils n'ont même pas de quoi se nourrir.
Non loin de là, je rencontre une autre famille, celle de Margaret, une jeune fille de 22 ans, elle aussi enfermée dans une petite pièce lugubre et sale pour l'empêcher de s'enfuir. Margaret est tombée en dépression il y a 2 ans à la mort de sa mère. C'est Rose, une cousine, qui l'a prise en charge.
À la mort de sa mère, elle pleurait beaucoup. Elle ne voulait plus sortir de la maison. Je l'ai emmenée chez le médecin, mais il n'y a rien à faire. Je fais ce que je peux. Je suis de sa famille éloignée, j'ai une maison à payer. C'est difficile pour moi.
Assise sur son lit, Margaret a le regard vide, un visage juvénile. On lui donnerait 10 ans de moins. Elle ne répond que par oui ou par non, sauf lorsqu'elle évoque son rêve.
Je veux avoir une belle vie. Je m'ennuie ici. J'ai besoin d'une belle maison, en ville, parce que là-bas, il y a du pain, des oranges, des bananes, des biscuits, de la farine, du riz, du sucre, de l'huile et du sel. C'est bon. Je veux des enfants et je peux même travailler.
Sa famille rit aux éclats en entendant ces paroles innocentes. Margaret, elle, ne rit pas. Elle est assommée de médicaments, comme me le raconte Rose.
Quand elle est sous médicaments, elle ne sort pas de son lit de la journée. Elle ne fait que dormir, même pour manger. Elle est tellement faible qu'elle ne sait même pas se lever. Un jour, elle est sortie et elle est revenue avec les vêtements déchirés. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je veux la protéger.
À l'instar d'Anna et de Margaret, des milliers de Kenyans souffrent de troubles psychologiques plus ou moins sévères. Une vague récente de suicides a finalement déclenché une prise de conscience des autorités. Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé un groupe de travail chargé de rédiger de nouvelles politiques en matière de santé mentale, jusqu'ici inexistantes. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, reportage très poignant. Et ce chiffre terrible indiqué par Charlotte Simonard, 2 psychiatres par million d'habitants au Kenya, ce qui laisse penser que les troubles mentaux sont traités uniquement à travers les médicaments et l'enfermement. Charlotte nous avait confirmé le dénuement total dans ce domaine. Écoutez ses explications.
Oui, il y a un tel manque de formation des professionnels que les médecins, face à un trouble mental, administrent systématiquement des traitements lourds, souvent mal dosés, calmants, somnifères, antidépresseurs, et les patients finissent comme des zombies. Il y a quelques centres psychiatriques, 10 dans tout le pays, mais ces structures sont à l'abandon, avec des bâtiments insalubres, sans personnel qualifié. Il n'y a souvent même pas un psychiatre. Au Kenya, le budget alloué à la santé mentale correspond à 0,01% du budget total de la santé, soit 20 centimes d'euros par Kenyan et par an.
Alors on comprend que la santé mentale est vraiment complètement oubliée jusque-là, mais les choses pourraient changer.
Oui, le gouvernement a lancé un vaste chantier pour mettre en place de vraies politiques de santé mentale. Alors, il est question d'investissement, de sensibilisation, de formation et surtout de faire de la santé mentale une urgence nationale. Tout est parti d'une vague de suicides et de dépressions enregistrées dans le pays ces dernières années. Cela a ému la population et libéré la parole, mais tout reste à faire. Imaginez, le suicide, par exemple, est considéré comme un crime ici. En cas de tentative avortée, vous risquez 2 ans d'emprisonnement. C'est dire comment sont considérés les troubles psychiatriques au Kenya.
Reportage très sensible et pas facile, hein. Je vous propose donc une petite douceur pour vous remettre.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Dans les carnets, vous le savez, on essaye d'observer le monde un peu autrement parfois, à travers les regards d'artistes, qu'ils soient réalisateurs, écrivains ou musiciens, chanteurs. Et depuis la rentrée, parmi les découvertes, il y avait cette jeune femme marocaine, Meryem Aboulwafa. C'est Angèle Châtelier qui nous avait sorti cet album de son chapeau. I don't like when you
judge. I don't like, I don't like. La musique de Meryem Aboulwafa est bâtie comme l'on façonne une maison, un toit, par étapes, avec les bons matériaux aux bons endroits. Rien d'étonnant à ce que sa musique s'élève avec une puissance redoutable sans qu'à aucun moment cela ne soit pompeux. Meryem Aboulwafa est architecte d'intérieur. Sa musique, elle l'agence et elle l'élabore comme un foyer. Like nature, we are made of sun and rain, desert and snow, mountains and plains. How can you judge someone reacting sometimes differently? We are gathering hate and love, pureness and darkness.
Alors, Meryem Aboulwafa est marocaine, mais c'est où son foyer?
Eh bien, son foyer à elle, c'est Casablanca. Elle y est née, elle y vit encore. Sa ville, elle la regarde avec une tendresse empathique, elle la cajole même.
C'est difficile au fait de parler vraiment objectivement de ma ville, mais c'est une ville vraiment... En tout cas, pour moi, je la vis comme... C'est ma ville, c'est mon espace. C'est vraiment mon espace où je me suis développée, où j'ai évolué, où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est un espace qui a vraiment énormément de potentiel, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Et je trouve que c'est une ville qui ne s'estime pas assez. Elle a vraiment énormément à donner. Elle est très riche et très sauvage, dans le bon sens du terme. Et comme tout sauvage, elle est naturelle. Et donc, elle est très vraie, au fait, Casablanca. J'aime beaucoup. I dance with words, words dances with me. He smiles at me, I love for us both. Par exemple, Paris, c'est une ville qui est belle et c'est une ville qui le sait. Elle sait très bien qu'elle est belle. Casablanca, par contre, je trouve qu'elle n'a pas d'estime, au fait, pour le potentiel qu'elle a.
Meryem Aboulwafa chante aussi bien en anglais qu'en arabe. Sa musique est très introspective. À 31 ans, elle ne cesse de s'observer elle-même, de s'analyser, de tenter de trouver un sens aux choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est le sujet de son premier album, appelé sobrement Meryem.
C'est cristallin, c'est planant.
Magnifique.
Qu'est-ce qui l'a révélé, Meryem Aboulwafa?
Eh ben, un morceau a lancé sa carrière, c'est Yakalbi, un chant traditionnel algérien que l'on doit à la cantatrice algérienne Fadela Dziria. Depuis chez elle, elle l'a enregistré à sa manière et c'est le premier morceau qu'elle a envoyé à sa maison de disques.
C'est une musique que j'aime vraiment beaucoup, je ne l'ai pas découvert vraiment très jeune, mais par contre je l'ai découvert en fait en 2014, les années autour de 2014-2013 peut-être. Et c'est un morceau que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était assez introspectif aussi. Il était vraiment plein de quiétude et plein de sérénité. Ça me ressemblait bien, en tout cas au moment où je l'ai écouté. C'est un dialogue en fait avec soi, avec... C'est une autoconsolation, je ne sais pas si ça fait un sens, mais c'est un morceau qui appelle à l'autoconsolation, à l'auto-quiétude. Je pense que c'est un mot inventé, mais une consolation en fait un peu par soi-même et une résiliation en fait, je trouve ça très beau.
Meryem Aboulwafa, en tout cas, nous console. Son premier album, ce sont 11 titres envoûtants, ensorcelants. À écouter idéalement, Sophie, à l'aube ou tard dans la nuit, pour laisser notre esprit divaguer.
divagation signé Meryem Aboulwafa. Son album s'appelle Meryem, tout simplement. À suivre, toutes les femmes le savent, la palpation est un geste très important pour détecter un cancer du sein aussitôt que possible. Et certaines, non-voyantes, le font mieux que personne. Technique développée en Allemagne, qui sera notre prochaine étape.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'était en octobre. Octobre rose, un mois devenu emblématique pour rappeler l'importance de dépister au plus tôt les éventuels cancers du sein. Grâce à Hélène Kohl à Berlin, on avait alors découvert une nouvelle technique de détection absolument originale. Discovering Hands, c'est-à-dire les mains qui découvrent, est une méthode mise au point par un gynécologue allemand à la fin des années 2000. Et pour la mettre en œuvre, sont formées des examinatrices médicales tactiles. Ce sont en fait des femmes aveugles qui, grâce à la sensibilité exceptionnelle de leurs doigts, peuvent détecter des nodules, des tumeurs, même de quelques millimètres. Formidable talent et un formidable reportage, signé Hélène Kohl.
Eva Bamberg vient chercher les patientes d'un pas sûr et les accompagne jusqu'à sa petite salle d'auscultation. Elle est aveugle, mais elle se déplace sans canne. Après 10 ans de travail dans ce cabinet de gynécologie, elle contourne les obstacles avec habileté, comme la petite fontaine décorative ou les plantes en pot. Cette dame est venue pour un contrôle mammaire. Pendant plus de 40 minutes, Eva Bamberg va inspecter sa poitrine du bout des doigts. Mais la consultation commence par une série de questions. Taille, poids, nombre de grossesses, d'allaitement, s'il y a déjà eu des cancers du sein dans la famille. Puis, avec du papier adhésif frappé de petits points en braille, la poitrine de la patiente est symboliquement divisée en plusieurs grandes parties.
Au total, je vais coller 5 bandelettes, par exemple là, au milieu, sur le sternum. Ce sont juste des points de repère pour que je m'oriente et que je n'oublie aucune zone. Ce sont comme des coordonnées géographiques sur la poitrine. L'examen en soi ne fait absolument pas mal, mais si vous ressentez des points sensibles, dites-le-moi pendant l'auscultation. Et maintenant, je vais palper la poitrine centimètre par centimètre, aussi les couches en profondeur, d'abord doucement sous la peau, puis jusqu'à toucher la cage thoracique.
Ses doigts entament une danse comme une valse ultra légère de 7 petites pressions presque sur place. Eva Bamberg maîtrise tellement cette technique qu'elle l'enseigne, même maintenant, à des jeunes femmes aveugles dans un centre spécial. C'est une formation qui dure 9 mois.
Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je ne cherche pas directement des tumeurs. En fait, chaque femme a son propre schéma de tissu mammaire et mon rôle, c'est de trouver des anomalies dans ce schéma, des choses qui ne collent pas avec le modèle. Je cherche juste des erreurs dans le système.
Selon plusieurs études, les palpatrices non-voyantes seraient capables de détecter 50% de cas de cancer en plus que les gynécologues. Avec 69 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes allemandes. Le docteur Christine Hoffmann a été l'une des premières à Berlin à faire confiance à l'expertise de ces femmes non-voyantes.
Ce n'est pas une alternative à la mammographie ou une échographie. C'est un tout autre concept. Nous nous considérons comme deux spécialistes complémentaires dans leur approche. Moi, en tant que médecin, et Madame Bamberg avec son expertise tactile. Les patientes viennent du coup plus souvent, une fois dans l'année pour le contrôle classique et une deuxième fois pour Madame Bamberg. Nous travaillons bien ensemble.
Eva Bamberg est modeste, mais elle a peut-être déjà contribué à sauver des vies. Elle se souvient notamment d'un cas.
La visite de contrôle annuel n'avait rien montré. Tout était en ordre. Mais elle est venue en plus chez moi. La tumeur était très petite. Elle n'aurait pas pu la sentir elle-même. La tumeur n'était pas palpable en position debout. Absolument pas. La dame avait à peine 40 ans. Tout s'est très bien fini pour elle.
Comme elle n'est pas médecin, c'est toujours le docteur Hoffmann qui établit le diagnostic.
Si elle a un doute, si quelque chose ne lui plaît pas, elle m'appelle immédiatement. Nous avons mis ça en place dans notre cabinet de façon à ce que la patiente soit tout de suite auscultée par moi avec une échographie le cas échéant. C'est moi qui tranche s'il faut d'autres examens. La patiente ne rentre
rentre pas chez elle avec des questions ou des craintes.
En Allemagne, de plus en plus de caisses de santé prennent en charge ce type d'auscultation, mais comme Katia, patiente régulière de Eva Bamberg, de nombreuses femmes sont prêtes à payer elles-mêmes autour de 35 euros pour la palpation.
Oui, parce que je trouve que c'est une excellente alternative aux examens plus invasifs et que c'est plus doux et meilleur pour mon corps. J'ai le sentiment que c'est intensif, précis, et comme ce sont des personnes aveugles, je me dis qu'elles ont forcément plus de capacités sensorielles et donc je leur fais davantage confiance.
Katia trouve que l'examen avec Eva Bamberg incite aussi les femmes à se palper elles-mêmes régulièrement leur poitrine.
Elle a un modèle de poitrine en silicone sur lequel on peut sentir soi-même ce que serait une anomalie, car en fait, on n'en a aucune idée. Les seins changent beaucoup au cours du cycle et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et du coup, je ne me palpe pas assez.
Au total, une cinquantaine de femmes non-voyantes travaillent en Allemagne avec cette technique, soit dans des cabinets de gynécologie, soit dans des centres de dépistage du cancer. La méthode commence à s'exporter en Europe, mais aussi au Mexique, en Colombie et en Inde. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, cette méthode s'appelle Discovering Hands, les mains qui découvrent ou comment des personnes aveugles arrivent à détecter des cancers du sein. À suivre, maman, comment on fait des bébés? A priori, partout pareil? Eh bien non, en Afghanistan et au Brésil, par exemple, ça ne se passe pas de la même façon.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
On regarde dans le rétroviseur, on observe cette année 2020, l'actualité y est souvent bien lourde, pandémie, misère, attentats, dérèglement climatique, et on se demande dans quel monde nos enfants vont-ils grandir. Et pourtant, la vie continue, et partout des femmes mettent au monde des bébés, des parents écoutent les premiers babillements avec émotion, fêtent la première dent, les premiers pas. Voici deux reportages sur la maternité qui montrent que si donner naissance est la chose la plus partagée au monde, il existe plein de façons différentes d'accueillir un enfant et de l'élever. Et parfois, il faut vraiment avoir confiance. C'est le cas par exemple en Afghanistan, un pays en guerre depuis plusieurs générations. Il y a quelques mois, une attaque terroriste avait même ciblé une maternité. Margot Ben, notre correspondante, nous avait raconté ses rencontres avec des femmes sur le point d'accoucher.
Comme vous vous en doutez, la guerre rend les accouchements beaucoup plus dangereux. Il arrive que la route vers la maternité traverse l'une des nombreuses lignes de front entre les combattants talibans et les forces gouvernementales. Et les futures mamans risquent de se retrouver prises entre les tirs. Dans la province du Wardak, par exemple, juste à côté de Kaboul, le directeur du principal hôpital m'a reçu dans la cour de la maternité devant une ambulance complètement détruite, criblée d'impact. Car deux semaines plus tôt, deux roquettes étaient venues s'abattre, juste là, dans l'enceinte de l'hôpital. Autre danger, la nuit où la criminalité augmente, impensable de prendre la route vers la maternité après le coucher du soleil. Donc les mères font tout pour ne pas accoucher la nuit, ou bien elles accouchent seules chez elles, ce qui les met évidemment en danger. Et l'Afghanistan est l'un des pays au monde avec le plus fort taux de mortalité des mères et des bébés.
Si on met de côté cette violence, Margot, une fois dans les maternités, comment ça se passe pour les Afghanes ?
Alors dans plusieurs maternités que j'ai visitées à travers le pays, il y a peu de médicaments. L'ibuprofène, c'est vraiment réservé aux cas gravissimes. La péridurale, c'est même pas la peine d'y penser. Alors les femmes font confiance au tawiz, une sorte d'amulette, une petite pierre qu'on enroule dans un bout de tissu et qu'on noue autour de la cheville.
C'est un peu la force du mental, ce que vous nous racontez là.
Sans doute, oui, mais les futures mères sont d'autant plus soucieuses d'apaiser les douleurs des contractions, car elles sont censées ne même pas crier ni se plaindre, même pendant l'accouchement.
Et pourquoi ?
C'est mal vu. Et les belles-mères viennent jusque dans la salle de travail pour s'en assurer. J'ai entendu l'une d'elles siffler à sa belle-fille « Tais-toi, tu n'es pas courageuse !» Et une autre m'a expliqué avoir eu honte de sa belle-fille qui gémissait dans le taxi l'amenant à la maternité par peur du « qu'en dira-t-on ?» La belle-mère, c'est un peu la terreur du foyer dans de nombreuses familles. Elles font tout pour préserver l'honneur de leur fils et les mères ne peuvent même pas s'en débarrasser rien que le temps d'accoucher.
La belle-mère, pire que sa caricature, là, en l'occurrence. Sinon, Margot, il y a beaucoup de croyances autour de la maternité en Afghanistan ?
Oui, plein, et pas seulement dans les campagnes où les gens sont souvent peu éduqués. J'ai rencontré, par exemple, une jeune femme de 22 ans, moderne, classe moyenne, de Kaboul. Et elle consultait des mollahs, des dignitaires religieux, mais qui ressemblaient davantage à des rebouteux, censés augmenter sa fertilité. L'un d'eux l'a envoyé trouver chez un apothicaire une peau de biche fraîche sur laquelle il inscrirait une incantation. Et elle lui faisait plus confiance qu'à son gynécologue.
Ah oui, quand même.
Oui, autre exemple connu des femmes. Au bord d'un lac près de la capitale, une jeune sorcière vêtue d'un grand voile turquoise reçoit des Afghanes venus de tout le pays. Elle est surnommée la sorcière bleue et elle lit dans les lignes de la main. Elle donne aussi des décoctions à boire, censées provoquer une grossesse dans les 2 mois qui suivent. Donc même si la médecine moderne elle a fait son chemin dans les grandes villes, la magie dispute souvent la place à la science. Il faut dire que les femmes ont énormément de pression pour avoir autant d'enfants que possible et il est bien vu que le premier bébé arrive dans l'année qui suit le mariage.
Voilà, beaucoup de pression sur ces femmes afghanes, celles des traditions auxquelles s'ajoute l'obscurantisme des talibans qui reprennent de plus en plus du pouvoir dans le pays. Deuxième étape, au plus près des futures mamans avec un changement radical de décor. Nous voilà au Brésil, dans l'une des plus grandes maternités de Sao Paulo. Là-bas, au Brésil, dans les hôpitaux privés, près de 80% des bébés naissent par césarienne. C'est quasiment devenu la norme et c'est un reportage de Marino Dacher.
À première vue, c'est une maternité comme une autre. On y croise des femmes très enceintes qui attendent une consultation, des familles chargées de cadeaux, des pères qui pleurent d'émotion au téléphone. Plus de 1000 Brésiliens naissent ici tous les mois. Et pour le docteur Mario Makoto, chef du service d'obstétrique du Santa Joan, une des plus grandes maternités de São Paulo, c'est la routine.
Nous avons des patientes qui ont un accouchement programmé. La porte d'entrée est la même, mais l'accueil est différent, car tout est prévu.
Pour entrer dans le secteur des blocs opératoires où ont lieu les naissances par césarienne, il faut enfiler des tenues stériles, changer de masque et porter une charlotte sur la tête. Selena, infirmière en chef, consulte le grand tableau blanc dans le couloir.
On a l'agenda des césariennes programmées et les chambres des accouchements normaux. Ce sont deux couloirs différents. Cette césarienne est prévue à 15h30, donc dans pas longtemps. La prochaine étape, c'est la naissance et on écrit RN OK, nouveau-né OK.
Plus de 80% des Brésiliens naissent par césarienne dans les hôpitaux privés et plus de la moitié dans le public. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande une moyenne nationale de 15% de césariennes pour sauver la vie des femmes et de leurs enfants en cas de danger. Alors pourquoi ce record au Brésil ? La scène qui se passe sous mes yeux confirme que c'est un choix plus culturel que médical. À peine sorti du ventre de sa mère, un nouveau-né pousse son premier cri et il est présenté par le médecin à toute la famille qui attendait derrière une vitre avec appareil photo et sourire jusqu'aux oreilles. L'infirmière me montre comment marche cette vitre à opacité contrôlée.
Chaque bloc opératoire donne sur une galerie. La famille attend ici et quand le bébé naît, le médecin dit « vous pouvez ouvrir » et clac, la vitre devient transparente.
Alors choisir la date de sa césarienne permet de planifier son congé maternité ou paternité, d'organiser les visites de la famille, d'imprimer les faire-part avec la date de naissance. Mais il y a aussi la peur de la douleur, des contractions ou alors l'histoire d'une cousine qui aurait sauvé son bébé grâce à une césarienne. Bref, l'accouchement normal fait peur au Brésil. Et pour l'hôpital, la logistique est plus facile à organiser. Les médecins savent à quelle heure ils terminent, ou à peu près, alors que les accouchements par voie basse peuvent durer des heures. Et puis les mutuelles remboursent mieux les accouchements par césarienne, donc c'est plus rentable pour tout le monde. Alors dans ce contexte, trouver un gynécologue qui suive une grossesse quand on ne veut pas d'une césarienne automatique, c'est compliqué. Anne-Laure est journaliste, elle est française et elle a dû mener une vraie enquête pour faire naître ses deux filles avec un médecin qui n'allait pas lui suggérer ou lui imposer une césarienne.
Alice, tu dis bonjour à...
Coucou
Marie. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Fallait trouver le gynécologue qui accepte de faire des accouchements par voie basse et qui soit sincère, parce que beaucoup d'histoires de Françaises au Brésil qui ont pris des gynécologues, finalement, on leur a promis un accouchement par voie basse. Et finalement, ça s'est terminé en césarienne. Donc ça, il y avait beaucoup de témoignages de Françaises à qui c'est arrivé. Enfin bon, ça a été un casse-tête. Mon mari me voyait piquer des crises de larmes au téléphone. J'avais un tableau Excel avec, je sais pas, j'avais 20 noms d'obstétriciens. Enfin, c'était vraiment un parcours du combattant.
La chargée de communication qui nous accompagne pendant toute la visite insiste pour montrer la salle d'accouchement normale avec balle de pilates et baignoire pour soulager la douleur car le Santa Joana essaye de valoriser l'accouchement normal. Mais l'écrasante majorité des femmes accouchent encore ici, comme dans la plupart des cliniques privées, par césarienne, qu'elles soient d'urgence ou programmées. Quoi qu'il en soit, le docteur Mokoto préfère ne pas s'étendre sur les raisons qui motivent ces femmes à choisir une césarienne, car ici la naissance est avant tout une fête, un événement social. On peut faire décorer sa chambre d'hôpital, on orne la porte avec une couronne brodée au nom de l'enfant, on peut aussi embaucher un photographe ou même un caméraman pour suivre l'accouchement. Et comme dit ce spécialiste des grossesses à risque, l'obstétrique, c'est toujours un équilibre entre le risque et la magie. À San Paolo, Marino Dacher, Europe 1.
Et oui, la magie de la vie à célébrer sans modération. À suivre, évidemment, une petite balade en Autistan pour finir avec Joseph Louvanet.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Les récits de Joseph Chovanec chaque dimanche, c'est cette petite cerise sur le gâteau qui vient toujours clore les carnets. Avec sa sensibilité et son érudition, notre ami philosophe polyglotte et autiste Asperger partage avec nous son regard sur le monde. Vous souvenez-vous de ce jour où Joseph était allé se promener sur les frontières du Benelux ? Ça vaut le détour.
Oui Sophie, un certain nombre de gens disent que pour le virus comme pour tout le reste, il faudrait fermer les frontières. Il y a toutes sortes de débats d'idées là-dessus, mais je suis terre à terre observateur, j'adore regarder les frontières, c'est mon activité autistique préférée, et je remarque beaucoup d'anomalies ou de particularités.
Comment ça, des anomalies sur les frontières ?
Ben, par exemple, l'exclave ou l'enclave, c'est quand un morceau de territoire est séparé du reste. Et pour avoir un choc, il faut se rendre dans l'un des endroits les plus curieux du monde, à savoir la commune de Baarle-Nassau ou Baarle-Hertog. Elle a deux noms justement, car on ne sait pas si elle est hollandaise ou belge. Sur la carte de l'Europe, à cet endroit-là, vous verrez une frontière brouillonne, comme si le logiciel de cartographie était devenu fou.
C'est comme un petit labyrinthe entre deux pays, c'est ça ?
Mais exactement, c'est le terme utilisé. Et voir ce labyrinthe, c'était un rêve d'enfance. Je suis retourné dimanche dernier à vélo, bien sûr, pour faire comme les gens du coin. Pour y arriver, vous devez déjà traverser la frontière un grand nombre de fois. Et les maisons sont construites souvent à cheval sur la frontière. Donc si on ferme la frontière, vous ne pouvez plus aller dans votre cuisine. Mais il y a plus curieux encore. À cause des restrictions Covid, ce qui est autorisé dans un pays peut être interdit dans l'autre.
Ce qui est embêtant dans un même village.
Où ça ouvre des possibilités. Ouais. Par exemple, la fameuse brasserie des Biergrens, donc littéralement frontière à bière. Dimanche, à cause des restrictions côté hollandais, l'entrée hollandaise était fermée. Les clients faisaient le tour du bâtiment et rentraient côté belge. On se demandera pourquoi ces complications. C'est simple, lors du tracé de la frontière, on a laissé chaque famille, chaque maison décider.
Et donc la frontière est complètement en zigzag.
Exact. Et je crois qu'on peut encore retoucher le système. Ouais. Par exemple, votre taxation dépend de votre porte. Donc, il y a des gens qui murent leur porte d'entrée et en percent une autre. D'accord. Parfois, c'est tout un terrain qui bascule. La première exclave que j'ai traversée dimanche, c'est le territoire H17. Ah non, c'est pas un nom de virus. C'était en fait le terrain d'un négociant, Van den Einde. Lui, il jugeait les impôts trop lourds aux Pays-Bas. Donc, il a proclamé sa maison forestière, territoire belge. Et la justice l'a reconnu en 1957, de quoi faire rêver, notamment en période de confinement.
Et cette semaine, vous êtes aussi allé, Joseph, explorer une autre anomalie de frontière, cette fois en Allemagne.
Oui, entre Aix-la-Chapelle au nord et le Luxembourg au sud, si vous regardez votre carte, vous remarquerez une frontière bizarre. Quand j'étais ado, je croyais à des bugs d'impression. Mais non, derrière, il y a une drôle d'histoire que j'ai enfin pu voir de mes propres yeux hier.
Racontez-nous cette histoire, Joseph.
Mais à la fin du 19e, on a construit une voie de chemin de fer à travers le terrain très difficile des tourbières d'altitude du massif des Hautes Fagnes. Après la Première Guerre mondiale, on a assigné ce chemin de fer à la Belgique. Comme la Belgique n'a pas annexé les territoires allemands qui entourent la voie, un étroit ruban de terre belge court à travers l'Allemagne sur une bonne centaine de kilomètres. Alors, de nos jours, il n'y a pas de train, mais la fameuse Fennbahn, c'est devenu une piste cyclable. Et je l'ai emprunté. La largeur du territoire belge par endroit n'est que de 2 ou 3 mètres. Et vous avez cette sensation jubilatoire de voyager longuement en Allemagne, de rencontrer des gens, mais sans y mettre les pieds si vous ne le souhaitez pas. Le clou du spectacle, c'est quand la voie belge croise l'autoroute allemande. À cet endroit, les frontières nationales sont superposées. Vous avez un territoire belge, au-dessus de votre tête, un territoire allemand. Habiter dans ce type d'endroit qui ne peut que rester ouvert, c'est très rassurant à mon avis. Ça apporte la preuve que l'être humain n'a pas vocation à vivre enfermé.
C'est la fin de ces morceaux choisis des Carnets du Monde. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous à les faire. Avec tous les reporters et les correspondants d'Europe 1, on prépare d'autres belles vadrouilles à partager avec vous en 2021. Je n'oublie pas Marc Fréjean à la réalisation, Marion Gauthier qui m'aide à préparer les émissions. Et ensemble, avec quelques jours d'avance, on vous souhaite une belle future année qu'on espère riche de tous ces voyages qu'on a envie de faire. Pas besoin d'aller très loin parfois pour écouter le monde changer. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec La Voix est libre et donc avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Programme spécial aujourd'hui.
On va parler d'espionnage, hommage à John le Carré, qu'on ira quand même visiter une bibliothèque chez Hélène Darroze.
Oh,
ouais,
chouette.
La chef.
Super, à tout de suite.
À tout de suite.
Je vous cède le micro. Et à tous, jeudi à dimanche prochain, on sera là à 13h sans faute. Et d'ici là, portez-vous bien.